et François se résigne. Mais il ne quittera pas Assise sans dire adieu à Sœur Claire et la consoler, car elle va souffrir, elle aussi. Une fois de plus, Rome, aux mains des émeutiers, la cour papale s'est installée à Rieti. C'est donc là qu'on enverra le Poverello avec ses inséparables compagnons. Que ferait-il sans eux? Se doute-t-il que, depuis des mois, Frère Léon tient une sorte de journal de la vie de François d'Assise? Il lui a dicté tant de choses, et Léon observe tout. À Rieti, malgré son état, François est persécuté par les admirateurs qui veulent à tout prix l'approcher. Beaucoup de gens du peuple, mais aussi des seigneurs et jusqu'à des membres de la curie. La discrétion, la simple humanité sont étrangères à ces curieux. François est à leurs yeux la célébrité du jour qu'il faut avoir vue. Il se réfugie à Fontecolombo. Là au moins, on le laissera tranquille, et il n'aura qu'à attendre dans une pièce obscurcie avec toute la patience dont il se sent capable. Elle est mise à l'épreuve par l'absence d'Élie, qui, malgré lui, fait sursoir deux fois à l'opération. N'en finira-t-on jamais? Autant l'hiver a été rude, autant cet été de 1225 est d'une chaleur accablante, même dans l'ermitage au cœur des bois. Quand donc viendra ce fameux médecin, tout de bon cette fois? François a peur. Il ne cherche pas à se le cacher. On va lui cautériser le haut des joues, et la nature en lui se révolte à cette idée. Mais il faut s'y résoudre. Enfin, le médecin annonce qu'on ne peut plus retarder d'un seul jour. Où est Élie? On le croyait absent, mais juste à temps il arrive et François en remercie le ciel. Lorsque parut le médecin muni du cautère qu'il allait rougir au feu, François se met à trembler d'effroi. Il savait très bien ce qu'on se proposait de lui faire subir pour venir à bout, espérait-on, de son ophtalmie. Le fer incandescent devait brûler l'une et l'autre tempe, du haut de l'oreille jusqu'à l'arcade sourcilière. Incapable de soutenir ce spectacle, ses fidèles compagnons, Léon, Ruffin, Ange et Masséo, filèrent. Seul Élie resta, et il put entendre François adresser au feu cette prière où parlait une foi d'enfant. « Mon frère le feu, le Très-Haut t'a conféré une splendeur que t'envient toutes les créatures. Montre-toi maintenant bon et courtois avec moi. » Je prie le Seigneur magnifique de tempérer pour moi son ardeur, afin que j'aie la force de supporter sa caresse brûlante. Élie logea dans la sienne la main du patient. Celui-ci ne tremblait plus. Il savait qu'il pouvait considérer comme exaucée une prière dite avec foi, et le fer lançant ses étincelles eut beau s'enfoncer dans sa chair. François ne ressentit aucun mal. Le médecin en fut plongé dans la stupeur. Élie, non. La main qu'il tenait était celle d'un saint, et il le savait. Les compagnons apeurés revinrent un peu honteux, et François les accueillit de la belle façon.
« Lâche, poltron! Sachez que je n'ai rien senti. »
Et le François des anciens jours, celui qui les faisait rire, se tournant vers le médecin, lui dit
« Si ce n'est pas assez cuit, vous pouvez recommencer. »
Quant à l'opération, elle se solda par un échec complet. Il fallait trouver autre chose. Le dernier hiver. À partir de ce jour-là, sa vie ne fut plus qu'une suite d'étapes dans son agonie. En septembre, il quitta Fontecolombo pour San Fabiano, qu'on situe de nos jours à la foresta près de Rieti, une colline au milieu